Dans l'Antiquité, un esclave avait pour son maître la même valeur que ses outils. Il pouvait faire ce qu'il voulait de ce qui lui appartenait, même les êtres humains. Il avait le pouvoir de vie et de mort. La loi était telle que l'ordre du maître était pour l'esclave la seule loi qui existait. Un esclave n'avait absolument pas de temps à lui. Jamais de congé, aucun instant de repos, pas d'horaire de travail établi à l'avance et aucun loisir. Tout son être, énergie et temps appartenaient à son maître. Fort de cet arrière-plan social, et tout comme l'apôtre Paul pour ses épîtres, Pierre se présente comme l'esclave de Jésus-Christ dans l'introduction de sa seconde lettre. Je commence à la lire. « Siméon, Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ, salue ceux qui, par la justice qui vient de Jésus-Christ notre Dieu et notre Sauveur, ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. » Verset 1. Selon les coutumes de son époque, l'apôtre démarre son épître par une salutation courante dans laquelle il s'identifie comme étant son auteur. Comme nom pour Pierre, Siméon est un archaïsme hébraïque pour le moins insolite qui n'apparaît qu'ici et une autre fois dans le livre des Actes. Siméon désigne donc l'apôtre à qui Jésus a donné le nom de Pierre. Dans l'Ancien Testament, Siméon est un fils de Jacob et donc le père de l'une des 12 tribus d'Israël. C'était un nom banal parmi les Juifs. Pour ce qui est du nom Pierre, il provient d'un mot grec qui signifie « caillou ». L'apôtre s'est servi de ces deux noms afin que les destinataires de sa lettre sachent exactement qui leur écrivait. Soit dit en passant que l'utilisation par Pierre de son nom hébreu Siméon au lieu du grec courant Simon est une preuve supplémentaire de l'authenticité de cette épître, car un imposteur aurait choisi la discrétion et donc l'appellation la plus répandue. Contrairement aux faux docteurs qui sont des faux frères, et qui cherchent à élever leur propre personne, Pierre se présente comme un serviteur d'autrui. En réalité, et comme je l'ai dit, c'est le mot « esclave » qu'il utilise, le rajoutant à son titre d'apôtre de Jésus-Christ. L'homme fougueux, toujours prêt à prendre le devant de la scène, que les évangiles nous présentent en la personne de Simon-Pierre, était devenu un homme humble, effacé et doux, qui se plaçait volontiers en position basse, de soumission, de devoir et d'obéissance. Moïse, Josué, le roi David, tous les prophètes, Paul, Jacques et Jude, se sont présentés comme des serviteurs de Dieu dans le sens d'esclaves. Au premier siècle, se désigner ainsi n'était pas une démarche insignifiante, mais un abaissement volontaire et servile dans une culture où, comme je l'ai dit, on considérait les esclaves comme des bêtes ayant la parole, rien de plus. Toutefois, et bien que cette pratique ait été dégradante sur le plan social, elle était honorable parmi les croyants de l'Église primitive. En se déclarant esclave de Jésus-Christ, quelqu'un reconnaissait en lui son maître, c'est-à-dire qu'il était sa possession de façon irrévocable et donc constamment à sa disposition. Selon l'enseignement des Écritures, le croyant a été racheté de ses péchés pour appartenir à un nouveau maître, Jésus-Christ. Il est sa propriété. Il ne s'appartient pas à lui-même et n'a aucun droit car il les a tous cédés à Dieu, à qui il doit une obéissance inconditionnelle. Le commandement divin est désormais sa seule loi. Bien que Pierre se considère humblement comme un esclave, il se présente également avec noblesse en tant qu'apôtre de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il est divinement mandaté par le Seigneur ressuscité, ce qui lui donne l'autorité nécessaire pour proclamer sa parole. Cette présentation combine l'humilité, la dignité et l'autorité. Pierre écrit aux mêmes croyants que ceux de sa première lettre et qui sont ceux qui ont reçu une foi du même prix que la nôtre. Le verbe « reçu » est tout à fait inhabituel parce qu'il veut dire « tiré au sort ». Luc utilise ce verbe qu'en parlant du prêtre Zacharie, il écrit que selon la coutume, il avait été désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir l'encens. L'apôtre Jean aussi emploie ce mot quand il rapporte qu'après avoir crucifié Jésus, les soldats se sont partagés ses vêtements et, concernant sa tunique, ils ont dit « au lieu de la déchirer, tirons au sort pour savoir qui l'aura ». Quand Pierre parle de ceux qui ont reçu une foi du même prix que la nôtre, il veut dire qu'ils ont été choisis par le Dieu souverain pour croire en Jésus-Christ. C'est comme s'ils avaient été tirés au sort. En d'autres mots, la foi, la faculté de faire confiance à Jésus, ne peut pas s'obtenir par des moyens humains, mais est un don de la grâce divine qui décide qui croira. Ça fait réfléchir sans pour autant nier la responsabilité de l'homme. La foi que les lecteurs de Pierre ont reçue est du même prix que celle des apôtres. Le mot traduit par « du même prix » n'est utilisé qu'ici dans le Nouveau Testament. Il désignait les étrangers à qui l'administration romaine avait accordé les mêmes droits que les citoyens de souche. En d'autres mots, Pierre dit ici que la foi des apôtres est la même que celle du simple croyant. Il n'y a pas de différence entre eux. Ce détail est important parce que c'est déjà un coup de patte contre les faux frères imposteurs qui commençaient à s'introduire dans les églises et qui enseignaient qu'il existait une connaissance supérieure et secrète qui n'était offerte qu'à certains privilégiés. La foi que reçoit le croyant est accordée sur la base de la justice ou droiture de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. En grec, la construction grammaticale de cette phrase indique clairement que Dieu et Sauveur sont la même personne, ce qui est difficile à rendre en français. Dans l'Ancien Testament, Sauveur était un titre pour Dieu le Père. Le Nouveau Testament, en l'appliquant 16 fois à Jésus, dont 5 fois dans 2 Pierre, affirme sans équivoque la divinité du Christ. Il s'ensuit que ce premier verset de 2 Pierre est arrangé parmi les grands passages du Nouveau Testament qui enseignent que Jésus est égal à Dieu le Père, car de la même nature que lui. Si la foi est un don de Dieu, les Écritures enseignent également que l'homme est responsable de l'accepter, ce qui signifie aussi qu'il a la possibilité de la refuser. Par la foi, le croyant est déclaré juste devant Dieu, ce qui veut dire, d'une part, qu'il est un criminel qui a été gracié, mais aussi et surtout qu'il possède le même statut que Jésus. Cette position de juste n'est pas due à de quelconque mérite, mais au fait que le croyant a juridiquement été placé en Christ, uni avec lui. Je continue notre texte. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Verset 2. L'expression la grâce et la paix juxtaposent les deux mots spécifiques des salutations grecques et hébraïques. Dans les Écritures, grâce et paix sont toujours données dans ce même ordre. La grâce en premier, puis la paix. Il est en effet nécessaire d'expérimenter en premier la grâce de Dieu, le salut en Jésus-Christ, le don de la vie éternelle qui ne dépend ni de nos œuvres, ni de nos rites, ni de notre caractère ou de quoi que ce soit qui serait en nous. Parce que Dieu aime fondamentalement l'homme, il a envoyé son Fils pour mourir sur la croix afin d'expier ses fautes. Dès que quelqu'un devient enfant de Dieu, il peut alors expérimenter la paix. L'apôtre Paul écrit « Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. » Ceux qui ne connaissent pas ou n'embrassent pas de tout cœur la bonne nouvelle en Jésus-Christ n'ont pas accès à la grâce et à la paix de Dieu. Pierre prie que la grâce et la paix vous soient données en abondance ou vous soient multipliées. Ce verbe, que Pierre utilise également dans sa première épître, est un mode qui exprime un souhait et une prière sincère et non pas une simple formule de salutation. Ces privilèges, que sont la grâce et la paix, sont accordés par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme dans le premier verset, Pierre affirme encore ici l'égalité de Jésus avec Dieu le Père. Le mot pour connaissance que Pierre utilise apparaît encore trois fois dans l'épître et toujours en relation avec Jésus. La forme complexe du mot pour connaissance que Pierre utilise ici décrit une connaissance pleine et exhaustive qui peut être intime. Elle est plus riche que le mot usuel grec pour connaissance et que Pierre emploie également à trois reprises dans cet épître. Quand l'apôtre parle de connaître Jésus-Christ, il ne fait jamais allusion à un certain savoir superficiel de la vie, mort et résurrection de Jésus, mais d'une connaissance profonde, authentique et intime du Seigneur. La connaissance qui procure le salut n'a rien à voir non plus avec les sentiments, l'intuition ou les émotions, mais s'acquiert uniquement au travers des Écritures grâce à l'action du Saint-Esprit dans le cœur du croyant. L'apôtre Paul écrit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ». Cette insistance par Pierre sur la vraie connaissance, d'une part, fait figure d'antidote à l'hérésie qui commençait à être répandue dans les églises d'Asie mineure par les faux frères et faux prophètes, et d'autre part, c'est un nouveau coup de patte à l'encontre des imposteurs spirituels. L'objet de la connaissance est Dieu le Père et Jésus-Christ le Seigneur. L'apôtre Paul écrit « Je considère tout comme une perte » à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Mon but est de le connaître, lui. Même si Jésus ne se situe pas sur un plan humain, le croyant peut arriver à mieux le connaître que son meilleur ami et aussi à lui faire des confidences qu'il n'oserait jamais avec ses proches. Je continue notre texte. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au travers de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par son excellence morale. Verset 3. Dans son combat contre les faux docteurs qui veulent ajouter à l'enseignement des apôtres leur discours séduisant, Pierre rappelle qu'en Dieu, le croyant a reçu tout ce qui lui est nécessaire et qu'il n'a donc pas besoin de faire une nouvelle expérience ou d'acquérir un savoir ésotérique réservé à des initiés. L'apôtre Paul écrit « Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion » qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, mais non sur le Christ, car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. » Fin de citation. Quand Pierre a écrit « Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété », il a judicieusement choisi le vocabulaire, la grammaire et la conjugaison. Le mot pour « tout » occupe une position qui le met en relief, un peu comme s'il était souligné. Le mot pour « piété » signifie à la fois « vénérer Dieu » et « lui obéir ». Et le temps du verbe « donner » exprime l'idée que Dieu a donné dans le passé et que ces dons produisent des effets qui continuent dans le présent. Au moment où le croyant place sa confiance en Jésus, il reçoit la vie éternelle et tout ce dont il aura jamais besoin pour mener une vie pieuse et spirituellement épanouie. Mais à cause de ces échecs répétés, le croyant vient à penser qu'il lui manque quelque chose, ce qui le pousse à rechercher une nouvelle expérience avec le Seigneur afin de recevoir sa puissance, alors qu'en réalité, Dieu lui a déjà tout donné et rien ne manque. Le croyant peut mener une vie droite et pieuse parce que Dieu lui a donné la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par son excellence morale. C'est déjà la deuxième fois en seulement deux versets que Pierre utilise le mot « connaissance » dans sa forme accentuée. Dieu attire les pécheurs à lui-même par l'intermédiaire de Jésus, qui il est dans sa glorieuse personne et par l'excellence de son caractère et la perfection de sa vie morale en tant qu'homme tel qu'il s'est révélé à l'humanité et que nous racontent les évangiles. Je continue le texte. Ainsi, la gloire et l'excellence morale du Christ nous accordent les plus grandes et les plus précieuses promesses. Verset 4. Le mot pour promesse n'est utilisé que dans cet épître et deux fois. Il était employé pour les annonces publiques, officielles et formelles, un peu comme avis à la population. Le verbe pour accorde est le même que dans le verset précédent où il est traduit par donne. Quand Pierre dit « Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété ». Dans les deux cas, la conjugaison exprime un don fait dans le passé qui produit des effets dans le présent. Ce n'est pas le verbe habituel pour donner ou accorder, mais un mot qui met l'accent sur la valeur du don. Il apparaît dans l'Évangile quand il est dit que Ponce Pilate, après s'être assuré que Jésus était bien mort, a donné son corps à Joseph d'Arimathée. Pierre dit aussi que les promesses de Dieu sont grandes et précieuses. Il les a décrites dans sa première épître. Il s'agit de l'héritage du croyant et du retour de Jésus sur terre pour établir son royaume. Le mot « précieux » veut dire « qui a de la valeur ». Pierre l'utilise dans ses deux épîtres non seulement pour décrire les promesses de Dieu, mais aussi la foi du croyant et le sang du Christ. Je continue notre texte. Par ces dons, Dieu a voulu que vous participiez à la nature divine. Verset 4. L'idée de devenir semblable à la divinité était très répandue dans les écrits païens et ceux des philosophes grecs du 1er siècle. En fait, on la trouve encore dans certaines sectes et dans la théologie de l'Église des saints des derniers jours, qu'on appelle couramment les Mormons. Par contraste, la déclaration de Pierre est unique dans le Nouveau Testament et l'apôtre ne dit pas que l'homme subit une mutation qui le transforme en un petit Dieu indépendant. Il dit que les dons que le Créateur, l'Éternel, fait à l'homme font de lui une nouvelle créature capable de participer à la nature divine, ce qui doit l'amener à refléter les qualités morales de Jésus-Christ. Parce qu'ils ont reçu la vie éternelle et sont participants de la nature divine, les croyants peuvent vaincre le péché au cours de leur existence terrestre et prendre déjà part à la glorieuse victoire de Jésus sur la mort. C'est uniquement à cause des promesses de Dieu que l'homme peut participer ainsi à la nature divine et devenir semblable au Christ. Le mot « participer » est souvent rendu par « communion ». Il veut dire « ceux qui ont en partage » ou « qui sont partenaires ». Pierre l'a déjà utilisé dans sa première épître, mais il était alors question de prendre part aux souffrances de Jésus-Christ. Ici-bas, les croyants participent à la nature même qui est celle de Dieu. Il s'ensuit que la vie chrétienne ne consiste pas à suivre des règles, une série de choses à faire et une autre à ne pas faire. Dès le début de cette épître, Pierre utilise un vocabulaire emprunté aux religions mystiques et panthéistes qui appelaient leurs fidèles à découvrir la nature divine qu'ils avaient en eux-mêmes et à se perdre dans l'essence des dieux. Son langage a dû attirer l'attention de ses lecteurs, puisqu'il donne à des mots du monde païen et philosophique une nouvelle signification chrétienne, celle-là. Que ce soit les imposteurs religieux de l'Antiquité ou les mystiques orientaux et les gourous du Nouvel Âge, c'est dû pareil au même. Ils prônent l'acquisition d'une connaissance supérieure et enseignent qu'elle élève les adeptes au-dessus de toute nécessité de suivre des préceptes moraux. Dès le début de cette épître, Pierre remet les pendules à l'heure et les croyants en garde contre ces hérésies en affirmant que la connaissance véritable de Dieu en la personne du Christ procure aux croyants tout ce dont ils ont besoin pour vivre une vie droite et digne. La gloire de Christ en tant que Dieu et son excellence morale en tant qu'homme parfait exercent une attirance salvatrice sur l'homme et pourtant bien peu acceptent son offre de salut.